Hello everybody, bienvenue dans l'émission de cinéma sur MOIFM, Ciné Forever. Et aujourd'hui nous avons la chance et avec beaucoup d'enthousiasme nous allons avoir Fatih Bediar qui va nous parler de tout ce qu'il a fait, parce qu'il a fait énormément de choses, dont bon, la chose la plus connue que tu as faite c'est Scott 45.
Ouais.
Voilà. Mais tu es sur plein de projets et puis tu as un grand cinéphile dans l'âme, donc on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Et puis il y a notre ami William qui est là aussi, qui va s'occuper de nous parler de quelques news.
Oui, tout à fait, Patrick, tout à fait. J'ai plusieurs informations très croustillantes.
Voilà. Alors, avant de les divulguer, nous allons écouter les Mystères de l'Ouest, le générique. William, alors es-tu prêt à nous donner quelques news à travers la galaxie ?
Tout à fait. Ben, bonsoir Fatih Bediar.
Bonsoir William.
Donc pour ma première ce soir, je vais vous parler de Spawn, la sortie du film Spawn. Donc créateur du comics Todd McFarlane, on prévoit une nouvelle adaptation cinéma. Les premières révélations sont surprenantes. Spawn sera un film d'horreur, de suspense et de surnaturel. Personnage différent des autres super-héros qui s'apparente plus à un croque-mitaine. Donc un personnage qui va traverser l'intrigue à la manière d'un spectre. L'auteur compare son scénario, dit-il, à ceux de Ring, Grudge ou bien les films d'horreur japonais où une présence inquiétante traverse toute l'histoire. Ensuite, chez DC Comics, donc on pense à sortir des films de super-héroïnes. Aussi, on se prépare à sortir un scénario qui va réunir Harley Quinn et Batgirl. On n'en sait pas plus en fait sur l'identité de la comédienne pour l'instant qui va interpréter Batgirl, ni le réalisateur qui va réaliser le film. Côté Marvel, Black Panther qui va sortir le 16 février 2018 aux États-Unis. Donc Black Panther, c'est le prince héritier du Wakanda, un pays fictif de l'univers Marvel, situé en Afrique centrale, dont l'avancée technologique est incroyable par rapport au reste du monde. Ensuite, il y a Edge of Tomorrow 2. Alors un peu spécial celui-ci, puisque le réalisateur Doug Liman a confié que le prochain film de la saga de science-fiction Edge of Tomorrow continuerait l'intrigue du premier opus et ferait office de préquel. Donc Tom Cruise, un homme et machine à idées, a proposé au scénariste d'en faire une franchise à plusieurs films dont on suivrait le héros à la façon de Mission Impossible. Donc du Edge of Tomorrow, en veux-tu, en voilà. Donc pour terminer ces news, Patrick, Skull Island, donc un univers toujours plus extraordinaire. Skull Island avec sa annonce explosif et puissant. D'ailleurs, Alex Garcia, le producteur, vient de révéler la taille de Kong. Autant vous dire qu'elle donne le vertige. Kong mesure 30 mètres. On vous avait prévenu, il sera gigantesque. Kong a pris de la hauteur tout simplement parce qu'il est prévu d'affronter Godzilla dans un film pour 2020.
Ouais, et puis les deux seront ensemble, ils vont pas s'affronter. Hein.
Oui.
C'est les news qui traînent actuellement.
Ouais.
Ah, ils vont... Qu'est-ce que t'en penses, Fatih ?
Pourquoi pas, hein. J'ai toujours été fan de Kaiju, donc oui. Moi je suis preneur. J'ai été assez surpris par la version de Gareth Edwards qui avait fait le Godzilla. C'était vraiment, vraiment pas mal.
Ça sortait un peu de l'habitude de Godzilla.
Surtout ce qui était bien, enfin déjà, c'était qu'il y a... Ça permettait de nous faire oublier ce que Roland Emmerich avait fait déjà avant. Parce que bon, hein,
c'est... Oui. Ça existe,
on s'en souvient tous, c'est là, ça. Ah, si, c'est très difficile d'oublier celui-là. Hein. Mais je trouvais que c'était vraiment pas mal. Le fait d'avoir traité en tout cas Godzilla vraiment sous la forme du mythe, mais vraiment quoi. Alors que au Japon, c'était surtout une entité divine. Ça, j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal. Le problème, c'est que justement, en prenant pour ce parti pris, on ne pouvait pas se permettre d'avoir Godzilla tout le temps dans le film. Et,
parce qu'en fait,
on parle beaucoup de Godzilla, en fait. On le voit pas beaucoup dans le film. Et voilà, c'est le parti pris du mythe.
On le voyait pas beaucoup.
On le voyait pas, beaucoup. Mais quand on le voyait dans le, dans le film, vraiment, ça le faisait grave, quoi.
Et mais tu penses pas qu'il était parti sur le principe en fait qu'on ne connaissait pas Godzilla?
Mais c'était ça. Mais encore une fois, cette approche-là, c'était celle qu'il fallait avoir. C'est vraiment quoi. Parce que oui, ça marchait. Mais c'est en même temps aussi celle que Roland Emmerich a eu lorsqu'il avait fait son adaptation. Et simplement, ça collait pas du tout quoi. Ça ne collait pas du tout.
Il a pas le talent.
Non, mais il y avait rien qui collait quoi. C'est-à-dire, nous, on est fans de Godzilla depuis le début. Quand on a vu celui-là, on était là. Mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est horrible. Et alors que Yann Debon avait prévu de faire un vrai Godzilla justement avant que Roland Emmerich fasse le sien, qui soit en fait beaucoup plus proche du Godzilla qu'on connaît et qu'on adore. Et ça c'était dommage. J'aurais bien voulu voir en fait la version de Yann Debon, mais en tout cas la dernière version qui a été faite par Warner et par Legendary était encore une fois pour moi plutôt vraiment vraiment pas mal. Et j'attends aussi beaucoup Kong Skull Island. Les images qui ont circulé jusqu'à présent, j'ai trouvé vraiment pas mal.
En tout cas, ça promet d'être un grand film sur Kong avec il y aura Tom Hiddleston quand même, l'actuel Loki dans Marvel.
Exactement.
Donc c'est quand même un très bon acteur. Je pense que pour un nouveau volet de Kong, on va avoir autre chose que du Loki.
Non, en tout cas,
puis il n'est pas tout seul. Il y a aussi Samuel L. Jackson dedans.
Oui, il y a une belle distribution.
Il y a John Goodman. Il y a pas mal de monde. Ça c'est plutôt cool. Il y avait aussi une très bonne distribution en fait dans le Godzilla, indépendamment de Aaron Taylor Johnson. Il y avait Bryan Cranston qui était dedans, qui était très bien. Juliette Binoche qui
est venue faire une
assez surprenante. On était tous
ils l'ont largué de l'avion,
c'est vraiment.
Alors, et qui est pas resté très longtemps à l'écran.
Exactement, c'était vraiment surprenant. Ça va, il y avait vraiment il y avait de bons acteurs dedans, mais j'ai hâte.
Voilà, donc pour mes prochaines news, là pour l'instant ça y est, c'est terminé. Pour voilà. La prochaine, ça sera la semaine prochaine, et je vais entre autres vous parler de Logan, le prochain Wolverine.
Ah, très bien.
Très bien. Qu'on attend tous, puisque ça sera le dernier rôle.
Oui, le dernier rôle, et bon, pour l'instant, on ne sait pas qui va prendre le rôle de Wolverine.
Mais en tout cas, voilà. C'est pas simple pour lui, quoi. Tout simplement.
La plupart des informations, en tout cas, disent bien que Hugh Jackman veut vraiment raccrocher avec ce rôle-là et qu'il veut passer à autre chose. Il a bien raison, il faut passer la main aux plus jeunes.
Mmh. Ouais. Alors, nous allons parler un peu des sorties ciné.
Oui.
Alors, nous avons cette semaine deux gros films, je dirais, Mr. Wolf et puis Mademoiselle. Qu'est-ce que t'en penses de ces...
Ah, il y en a aussi quand même un troisième, et dans ta liste, c'est Snowden, le film de Liverpool.
Oui, absolument, oui. J'y allais y penser. Oui. Que j'ai vu déjà il y a deux mois. Donc,
ouais, le film de Park Chan-wook.
Mais bon, Oliver Stone, c'est Oliver Stone.
Exactement, chaque fois qu'il fait un film, ça fait quand même figure de film événement.
Oui, hein. Absolument.
C'est surtout en ce moment, un film comme Snowden qui débarque, mais vraiment à une semaine des élections américaines. Et on parle d'écoute illégale, de machin, de ceci, bon, de cela. Genre jusqu'où on peut aller, jusqu'où on veut aller pour continuer la lutte contre le terrorisme à l'échelle locale, à l'échelle globale, etc., etc. C'est un film qui est horriblement d'actualité, Snowden, quoi.
Ah, c'est pas un hasard, je crois, oui.
Non, c'est pas un hasard. Après, voilà, quoi. C'est Snowden. Le film est vraiment bien.
Absolument.
Le film est vraiment bien. Beaucoup plus classique en fait, si on met en perspective avec les autres films d'Oliver Stone. Mais en fait, il y a carrément une rupture en fait dans sa filmographie. Après L'Enfer du Dimanche, il a commencé à être un peu plus. À se poser davantage.
Et être moins critique peut-être,
Non, même pas ça. Là, après, je parle vraiment de forme plus que de fond. Parce que Oliver Stone, en fait, lorsqu'il a fait JFK, il a mis au point une espèce de style super agressif visuellement, que lui-même appelait Docu Bang Bang. Et qu'il avait mis en place avec ses monteurs sur JFK. Il y avait Hank Corwin, il y avait Pietro Scalia, il y avait David Brenner, tous ces gars-là qui sont tous d'excellents monteurs. Et ils ont fait en fait une espèce de... Stone a toujours été un fan de Jean-Luc Godard, et il s'est dit, bah tiens, on va quand même reprendre tout le côté jump cut, épileptique, etc., qu'il y avait en fait dans Un bout de souffle, qui est le film de référence de Stone, et on va pousser ça... on va vraiment monter ça, bring it to the next level, comme ils disent les Anglais. Et il était devenu, en fait, c'était devenu un peu sa marque de fabrique. C'est JFK, il y a eu ça un peu dans Entre ciel et terre, mais là où ça a vraiment explosé, ça a été sur Tuerney et sur Nixon, etc. Et en fait, progressivement, Stone a perdu aussi les principaux collaborateurs avec qui il a eu, en fait, et il est revenu à un style, on va dire, un peu plus classique, un peu plus basique, et sans être épileptique ni quoi que ce soit. Et Snowden, dans la forme, est assez posé, alors que Stone, en fait, lui-même, lorsqu'il parlait de faire un film sur le renseignement, il voulait toujours prendre en référence, il prenait en référence Ennemi d'État de Tony Scott, qui, justement, lui, avait un montage assez musclé, c'était quand même assez... assez agressif visuellement, et bizarrement Snowden ça ne l'est pas, mais ça n'empêche pas justement de, au film d'être super intéressant. Alors après, il n'apporte vraiment rien de plus que le documentaire Citizen 4 qui avait été fait justement sur Edward Snowden. D'ailleurs Citizen 4 en fait prend on en parle dans le film avec Melissa Leo qui joue en fait le réalisateur, en fait c'est elle qui a réalisé le documentaire. Et ça, franchement, c'est vraiment... c'est vraiment très très bien.
Ça t'a plu, même si c'est pas pour toi un grand Oliver Stone ?
Non, il a fait beaucoup mieux. Le problème, c'est que justement, j'aurais souhaité... Stone, en fait, c'est pas difficile. En fait, Stone, il est vraiment particulier parce que c'est quelqu'un dont j'ai toujours été fan. Mais... comment dire, il l'anticipait en fait, si tu veux, ce genre de sujet, tu vois, il préférait en parler avant. Alors après, bien sûr, il a fait beaucoup de films historiques, mais l'approche de Stone était plus celle en fait d'un, comment dire, c'est une approche quasi médicale en fait, c'était quelqu'un qui s'intéressait toujours aux patients zéro, genre les maux d'aujourd'hui en fait, bah voilà, il faut remonter plusieurs décennies en arrière pour voir d'où ça vient. Et c'était ce qu'il a fait avec pas mal de films en fait, quand il... tous ces films en fait, juste que ce soit plat, et beaucoup justement pour lui, les mots d'aujourd'hui prenaient racine en fait dans le Vietnam, c'était lui-même qui le disait quoi. Et dans les politiques conservatrices, il a toujours été, même s'il a voté à droite à quelques reprises, il a toujours été en fait militant gauchiste, il s'est toujours revendiqué comme tel. Et donc, il anticipait, c'est-à-dire quand il faisait des films modernes, c'était regarder ce qui va arriver. Et en fait, Snowden, en fait, il arrive un peu trop tard, tu vois ce que je veux dire, surtout après Citizen 4. Un film comme celui-là, en fait, Stone aurait dû le faire bien avant... Il y a eu le même problème, en fait, avec Costa Gavras lorsqu'il a fait Le Capital. Ouais. Le Capital, il arrivait... Le film, Le Capital, Costa Gavras, qui pourtant, tu vois, était un peu l'ancêtre d'Oliver Stone, Le Capital est arrivé trop tard. Il y a déjà eu un paquet de documentaires qui ont été faits sur le sujet, beaucoup de médias fiables se sont intéressés au sujet et ont fait vraiment des choses vraiment bonnes autour de ça. Et Snowden, un peu... Grosso merlo, c'est un peu ça. Sauf que, bon, la mise en scène est quand même très soignée, les acteurs sont superbes, Joseph Gordon-Levitt est vraiment bien, Nicolas Cage est bien. Puis il y a surtout la particularité en fait, de Snowden, c'est que c'est le premier film en fait, d'Oliver Stone tourné en HD.
Ah, ouais, c'est
important. Non, il n'a jamais tourné en HD avant. Il a toujours
tourné en pellicule.
Toujours tourné en péloche, il a toujours su s'entourer des meilleurs chefs-op du milieu. Il a quand même eu Robert Richardson comme chef opérateur de Salvador jusqu'à U-Turn. Et Robert Richardson, c'est quand même un chef op qui est considéré comme étant le meilleur aux États-Unis. Et oui, à juste titre, il n'a pas usurpé cette réputation. Et après, il a travaillé avec d'autres. Il a donné sa chance, par exemple, à un excellent chef op qui est devenu aujourd'hui aussi l'un des meilleurs, qui s'appelle Salvatore Totino. Il a travaillé avec lui sur L'Enfer du Dimanche. Il a travaillé avec Rodrigo Prieto, qui était aussi l'un des chefs opérateurs brésiliens de Fernando Milanes, entre autres, etc. Et il a jamais voulu passer à l'HD. Il a toujours été...
Et d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'il est passé...
Déjà, il y a quand même un problème, c'est qu'il avait aussi... au niveau budget, il avait vraiment besoin de pouvoir passer à un autre format. Parce que, faut pas oublier une chose, tu veux tourner un film, en fait, en pellicule en France, en tout cas, c'est pareil, tu peux encore le faire, parce que les labos sont encore là, les labos sont encore ouverts. Au States, c'est pas pareil. Et là, en l'occurrence, pour les problèmes de coût, en fait, il était obligé de se rabattre sur la HD. Mais il a quand même chopé le ténor en matière de HD. Il a quand même chopé le meilleur chef opérateur HD, c'est Anthony Don Mantel. Et c'était quelqu'un, en fait, qui tournait en digital déjà. C'était lui qui a l'origine du Dogme avec Lars von Trier.
Ah, d'accord.
Et il a été aussi le chef opérateur de Danny Boyle. Tu vois, c'est lui qui a fait la photo de 28 jours plus tard. Entre autres, et c'est vraiment lui qui a le meilleur rendu HD dans le milieu avec Roger Deakins et Quand il veut aussi, il est très bon, c'est John Bibby qui avait fait une photo magnifique pour In the Cut de Jane Campion. Mais après, bon, les photos qu'il avait faites pour Michael Mann n'étaient pas terribles, hélas. Tous les plans nocturnes. Les plans durs étaient super, mais les plans nocturnes ne collaient pas. Et Snowden, aimé. Magnifique à regarder. Il est vraiment super beau, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un beau film qui a une haute tenue visuel, vraiment, c'est un plaisir à regarder. Après, le propos, oui, c'est-à-dire on n'apprend rien de nouveau, en fait, tout simplement.
William, tu vas nous parler un peu de la semaine prochaine de lundi soir, avec le festival du court-métrage.
Alors oui, en fait, c'est Sergio Dovale qui a cette habitude, mensuellement parlant, d'animer sa soirée qui s'appelle « C'est pas la taille qui compte ». Et c'est une soirée de court-métrage qui est diffusée en fait au Saint-Comartin. Donc c'est proche de Saint-Lazare.
Ouais.
Donc c'est un rendez-vous mensuel qui aujourd'hui a 5 ans, tout au plus. Et donc c'est un rendez-vous en fait où tous les fans de court-métrage, tous ceux qui sont animés par cette passion-là viennent, s'amassent dans la salle. Il y a quasiment le Saint-Comartin, la salle de cinéma en elle-même, qui est littéralement privatisée. L'intégralité des salles sont prises d'assaut pour pouvoir diffuser les films, comme ça, en simultané. Donc,
Et l'intérêt aussi, c'est qu'il y a tous les gens, des courts-métrages qui viennent.
Oui, voilà, il y a aussi les équipes des films, avec les réalisateurs, les comédiens et les producteurs, et les scénaristes, si le scénariste est disponible. Donc, voilà, un rendez-vous incontournable.
Absolument, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de chaque court-métrage, l'équipe technique vient, les gens leur posent des questions, et ensuite, à la fin de la programmation, vous pouvez les rencontrer, boire un verre avec eux, discuter... Et sympathiser, comme on dit, tout simplement.
Ouais, c'est une ambiance hors pair, quand même. Je pense, à mon avis, que c'est même, à la limite, la meilleure projection de court-métrage de tout Paris.
Quand même.
Oui. Oui.
Place à la musique, s'il vous plaît, Maestro. Alors, Fatih, on va commencer à parler de ta carrière.
Carrière, ça devient grand mot.
Ouais, mais t'as fait tellement de choses intéressantes. Hein. Surtout, bon, toute ta carrière de journaliste. Mais maintenant, tu t'es concentré sur ton scénario. Enfin, un déjà scénario pour quelqu'un d'autre. Colt 45, ouais. T'as écrit il y a 2 ans, c'est ça? Alors, 3 ans maintenant, non, puisque non, le film non, est sorti il y a 2 ans, je crois.
Mais non, le film date en fait il y a longtemps, j'ai pas non plus trop m'attardé dessus, et c'est quand même un souvenir qui reste assez douloureux.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux parler un petit peu ou c'est...
C'est disons que Fabrice Duvel a parlé déjà, en tout cas. Ce qu'il a dit était très juste lors des interviews qu'il a données au sujet du film. C'est un film qui a été très 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 difficile à tourner,
à réaliser, niveau production, non, c'est ça?
Bah, niveau prod, ouais, parce que c'était, comment dire?
Donc.
Ça a été dur. Le scénario, en fait, date de 2010, je crois. Je l'avais écrit en 2010. J'ai écrit en 2010, lorsque Fabrice est arrivé, en fait, le film, on l'a fini de le tourner, en fait, en 2012. Le temps de tout développer, le temps de réunir l'équipe, etc. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de temps que Fabrice aussi puisse adapter le scénario. Enfin bref, ça a été très très difficile. Bon,
je... Mais c'est pas un bon souvenir, on dirait, pour toi, non ?
Ah non, parce que disons que le film, il correspond pas du tout en fait à ce que j'ai écrit, mais du tout.
Mais qu'est-ce qui a changé alors ?
J'ai envie de te dire tout. Le film tel que la dernière fois que je l'ai vu, le film pour moi à mes yeux était pas fini, était vraiment pas fini.
Qu'est-ce qui manquait par rapport à ce que tu avais écrit? Il a changé beaucoup de choses à l'intérieur.
C'est pas une. En fait, disons ce qui s'est passé. C'est Fabrice l'a dit justement, il manquait 30 pages et c'est vrai. Il manquait 30 pages. 30 pages ont été sucrées.
Elles étaient déjà comprises dans le scénario ou...
En tout cas, la version que j'avais approuvée avec Fabrice, lorsque je suis arrivé vraiment au bout de mes obligations contractuelles, genre c'était le dernier jet que je devais approuver avec Fabrice avant l'envoi du film en prépa, ça a été ça. Le scénario devait faire entre 115 et 119 pages. Et le scénario et ce draft, ce jet était plutôt bien. Je trouvais ça pas mal.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Problème avec la prod.
C'est un problème d'argent ou c'est...
Non. C'était problème de prod. Ça a été.
C'est l'impression que ça a été un peu l'enfer pour toi.
Enfin, celui qui a vraiment vécu l'enfer, c'est surtout Fabrice, parce que Fabrice devait justement lutter jour et nuit avec. Avec la production. Moi, une fois que j'avais fini en fait ce film-là, je suis parti en fait sur d'autres projets. Justement, lorsque j'avais fini de travailler sur ce film, j'avais développé un film pour Johnny To. J'avais développé un film pour Johnny To et il a fallu donc que je bouge, vu que le film, en fait, ça devait être son premier film en langue anglaise. Et j'en ai développé le scénario avec Massimo Godioso, le scénariste de Gomorrah et de Reality. Et la prod m'avait donc...
Demandé.
Enfin, m'avait demandé en fait de travailler sur le film. J'étais, oui, très bien. Et donc, vu que c'était en fait un truc un peu spécial, il fallait que j'aille aux États-Unis, il fallait que je m'immerge en fait. Je peux pas travailler en fait, je peux pas créer, je peux pas écrire tant que je me suis pas immergé en fait dans le cadre que je suis censé développer.
Donc direction les États-Unis.
Donc ouais, parce qu'en fait c'était surtout la première partie du film qui se passait aux States. Et donc je suis allé dans le sud des États-Unis et je me suis totalement immergé.
Et tu as mis combien de temps pour l'écrire aussi?
Ben, ce truc-là, ça a été assez rapide, mais en fait, pendant cette période où j'étais en train de travailler sur le Johnny To, et parallèlement aussi, je travaillais sur d'autres projets, mais le Johnny To, c'était vraiment celui sur lequel je devais plancher immédiatement. Lorsque je suis revenu en fait en France, le film était déjà démarré, en fait. Le film avait déjà démarré. Et donc voilà quoi, ça a été lorsqu'après on m'a mis au courant de ce qui s'est passé, ça a été ça a été très difficile, ça a été très 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 difficile. Après voilà quoi, le film maintenant bon, il est sorti.
Mais qu'est-ce que t'en penses du résultat?
Mes réserves elles sont énormes.
Par rapport à ce que t'avais écrit.
Bah, c'est très difficile. J'ai vraiment vraiment un gros problème de me distancier du film. Je suis quand même à l'origine du projet. Hein. C'est pas quelque chose qu'on m'a mis dans les mains. Est-ce que tu peux le développer? Non. C'est quelque chose que j'ai apporté en fait. Et j'ai mis énormément de moi dedans. Mais vraiment.
Et en conclusion,
bah rétrospectivement, honnêtement, j'aurais souhaité le garder le scénario pour moi. J'aurais souhaité
t'as voulu le réaliser, c'est ça?
Ouais. Et Fabrice m'avait dit en fait un temps, il m'a dit tu devrais aussi penser. Il dit t'es sûr que t'as pas envie de le réaliser? Je trouvais le film un peu trop gros pour un premier film en fait. Et ça aurait été un deuxième film ou un troisième film, mais pas un premier film. Mais bon. Maintenant, après le film, il est sorti, et lorsqu'un film est sorti, il appartient plus à ses auteurs. Et ensuite, moi j'ai été surpris, c'est que malgré en fait toutes les réserves que j'ai sur le film, il a ses fans. Moi, ça m'a surpris en fait. Qu'il y a eu des personnes qui viennent vers moi en disant non, le film est super, tu devrais pas avoir honte. Bon, ouais, si tu veux, mais bon,
ça fait plaisir quand même. Non,
écoute, s'ils ont eu leur compte, j'ai envie de te dire tant mieux. Mais après, non, c'est pas.
Voilà, quoi. C'était pas le résultat que tu as escompté en l'écrivant, tout simplement.
Ça n'a rien à voir, mais vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça a été en fait ce que j'ai écrit, c'était un film noir qui était dynamisé par des scènes d'action, mais les scènes d'action n'étaient pas gratuites, elles n'étaient pas du tout, quoi.
Et là, tu trouves qu'elles sont gratuites?
Il y en a une ou deux qui sont quand même un peu, voilà, quoi.
Ils vont faire une scène d'action, quoi, c'est ça?
Ça passe pas. Ouais, non, tu vois, ça a été. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la prod a décidé d'aplanir le film. C'est une hérésie pour moi. Enfin, j'arrive pas à croire que le film fasse 1h25. C'était pas possible. Le film que j'ai écrit tenait en 2 heures.
Ah oui.
C'était pas possible. On pouvait pas faire autrement. Donc, t'imagines un peu passer d'un film de 2 heures à un film d'1h25.
Ah, c'est redoutable.
Ah, ça fait mal. Hein. Vraiment, ça fait mal. Ah non, là vraiment ça a été assez dur. Et bon après voilà quoi, Fabrice a eu ses soucis avec les acteurs, avec la prod, etc. Il y avait des choses aussi qui m'ont quand même un peu qui m'ont pris de court et qui ont quand même mis un... Ah là là, ça a été assez dur. Le jour en fait où je me suis dit ça va vraiment pas, ça a été le jour où on était en plein casting et pour le personnage en fait de Milo.
Qui était le personnage principal?
C'était l'un des personnages principaux et c'était le personnage en fait qui au final dans le film est joué par Joey Starr. Mais la personne qui avait le rôle vraiment, qui était la star de Bullhead, de Michael Roskamp, de Rustin Bone, de Jacques Audiard, de...
Il a loupé complètement.
C'est pas ça, c'est que lui, il était en train d'exploser, Mathias. Et Mathias était démonté. En même temps, il sortait de Police, cette Police. Le film est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Maïwenn dans le film, mais il ne devait pas avoir ce rôle-là. Il devait avoir le rôle, en fait, de Simon Apkawa à la lecture de Joey Starr, celle de Mathias Chalard. C'est vraiment pas photo.
T'as dû prendre ton pied, voilà. Quoi. Non,
c'est horrible. Et pourtant, j'adore Mathias. C'est quelqu'un qui a énormément fait aussi. C'est grâce à lui que. Toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by system, who gon' try us? Feeling the world go against us, so we put the world on our shoulders. I torture you. With my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with no hesitation through my scope. I see my enemy like, what's up, hold up, we finna reload up. Yeah. Take my hand through the flames. I told you, I'm a slave.
Tu vas nous raconter comment tu as voulu être scénariste. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était pour moi nécessaire. Il fallait en fait.
Et quand t'as pris, je sais pas, t'as vu quelque chose?
C'est qu'on se retrouve en fait avec beaucoup de techniciens et pas assez de conteurs d'histoire. Tu vois ce que je veux dire?
Absolument.
Contrairement à ce que certaines personnes. Et le problème, c'est que. J'avais pas envie de faire l'école de
scénariste.
Et j'ai fait certaines interviews, mais il y en a une en particulier, en fait, qui est morte il y a quelques années de ça, et cette disparition m'a horriblement attristé. Un scénariste, énorme scénariste. Et je l'avais rencontré avec Luciano, Zio Luciano. Et, Je crois que c'était sur Puccini, je crois. Et mais avant, mais il a pris sa retraite. C'était ouais. avec Dictaphone à l'époque quand on faisait
Absolument.
Ça. Et j'avais une réserve en fait. J'avais. Il y a vraiment en fait, il y a eu un contact qui a eu, mais vraiment un contact. Et puis après, on a. Luciano, c'est quelqu'un qui parle extrêmement bien le français.
C'est quand même un gros avantage.
Parfait, mais en plus ça, c'était. Il maîtrisait l'argot français, etc. C'est quelqu'un, par exemple, dans l'interview, etc.
Bah, tu sais bien que comme le cinéma français et italien, c'est la post-production.
Absolument, ouais. Et donc, Zio, lorsqu'on s'était... il m'a posé une question toute simple, il m'a dit « T'as pas envie de faire ce métier de con en parlant de journaliste toute ta vie ?» Je lui ai dit « Non, du tout. » Il me dit « Qu'est-ce que t'as envie de faire ?» Je lui ai dit « J'ai envie de faire des films. » Il me dit « Ok. » Il me dit « Tu fais une école de cinéma ?» Je lui ai dit « J'ai pas envie d'en faire. » Il me dit « T'as bien raison. » C'est ce que je me disais. Il me dit « J'imagine que les écoles cinéma en France doivent être encore plus graves que celles en Italie. » Progressivement, je lui ai expliqué donc que pour pouvoir faire des films, j'avais surtout besoin d'apprendre à raconter une histoire et à écrire justement des scénarios, quoi. Vraiment, ça s'est fait out of the blue. Il a dit qu'est-ce que tu veux savoir? Ça a été cette question-là. Ça a commencé comme ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Et après, ben, je ne cessais de retourner chez lui. Et il m'apprenait en fait.
Une cadence, c'était tous les mois, tous les deux
non,
mois.
Non, c'était. J'avais vraiment le restant en fait de mon séjour en Italie. Ce que je faisais, c'est que dès que j'avais fini de faire mes interviews, j'allais le voir. Je retournais le voir. et donc après, ça a été. Il passait en vue. Il m'a appris vraiment les rudiments. Il m'a vraiment tout appris.
Et c'est ton maître.
Exactement. C'était vraiment mon mentor. Il est devenu mon mentor. Et tu peux pas. Attends, mais la chance d'avoir vraiment quelqu'un comme Luciano pour t'apprendre. Vraiment.
Quel scénariste.
Et ce qui était bien avec lui, c'est qu'à chaque fois qu'il t'apprenait un truc, il te disait, bah tu vois, voilà, si tu fais ça, c'est pas difficile. Ben, tu te souviens de la scène dans Le Bon, la Brute et le Truand? Je dis ouais. Il dit bah voilà. C'était pas, si tu veux, comme il y a énormément de gens qui se prétendent être scénaristes et qui facturent des séminaires. Genre, mais il y a des centaines d'euros et ces gars-là n'ont aucune filmographie, tu ne sais pas d'où ils viennent. Et ils te disent, bah voilà, si vous voulez réussir, si vous voulez écrire des scénarios, c'est comme ça. Et ok, d'accord, mais qu'est-ce que t'as fait avant? Et c'était pas le cas avec Luciano. Avec Zio Luciano, non, quoi. Il avait une carrière qui parlait pour lui.
Mais est-ce qu'il te parlait de Sergio Leone?
Il détestait Sergio Leone.
C'est pas vrai.
Le haïssait.
C'est incroyable.
Pourquoi il t'a expliqué?
Le truc, c'est que Luciano, en fait, c'est quelqu'un, déjà, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et ça, c'est quelque chose qui... Faut savoir une chose, c'est que Leone, en fait, il se déplaçait toujours avec une cour. Il avait toujours des gens autour de lui. C'était des Benny Oui Oui. Et il y avait toujours les mêmes. C'était Giancarlo De Santi, c'était... Tonino Valeri, qui nous a quitté il y a pas si longtemps que ça, que Dieu ait son âme.
Le
réalisateur de Mon Nom et Personne,
dont on se demande qui a vraiment réalisé le film, puisque Sergio Leone est producteur sur le film.
Exactement, voilà. Et il y a toujours eu, en fait, cette bande qui s'appelle de Benny Oui Oui, il avait sa cour, Leone. Et, Luciano, c'est quelqu'un qui avait vraiment un caractère bien élu, il avait un caractère en acier trempé.
Ouais, c'est-à-dire qu'il préférait rester à la maison, tranquille.
Non, du tout. Lui, c'était un gros fêtard. C'était quelqu'un qui adorait boire. C'était quelqu'un qui adorait manger. C'était quelqu'un qui adorait aussi niquer. Il avait carrément une colère.
Un Italien, quoi.
Ah non, mais un vrai Italien, il fallait voir. Mais vraiment, il avait une. On parlait, par exemple, des maîtresses qu'il a eues et des femmes qu'il a eues dans sa vie. C'était un truc de fou. Et c'était pas du bluff, il montrait les photos.
Pourquoi il avait un catalogue?
Il avait un album photo, etc. Il montrait des photos de ses compagnes qui étaient nues. J'ai halluciné, quoi. J'arrivais pas à le croire. Et Luciano, il était vraiment.
Est-ce qu'il y avait des actrices connues dans le lot?
Ah ouais, vraiment.
Des noms, alors.
Il y en a certaines. Bah, disons que celle vraiment avec qui il a eu. Enfin, ça a été quand même assez spécial. Ça a été Irene Myrickle, qui a été en fait celle qui est surtout connue pour avoir joué la compagne de Brad Davis dans Midnight Express et qui a joué dans Inferno, notre ami Dario. Et entre autres, et enfin bref, je vais pas non plus rentrer dans le détail.
Voilà, c'est pas le but de l'émission.
On va s'éloigner
de ça. Mais voilà, quoi, c'est-à-dire il a vraiment un caractère particulier et lui et Leone, ça ne pouvait pas. Leone avait besoin de lui parce que c'était vraiment le meilleur scénariste du moment. C'était vraiment le scénariste le plus en vue à l'époque.
Alors j'ai une question, parce que tu parles de Luciano. Mmh. Est-ce qu'il t'a, pour ton premier scénario de long métrage par exemple, est-ce qu'il t'a inspiré? Comment ça fonctionnait pour toi quand tu as commencé à écrire ton premier long métrage?
Alors ça, c'est justement, ça s'est arrivé bien après, parce qu'en fait, lorsque Luciano m'a appris en fait tout ce que je devais savoir sur l'écriture du scénario, j'étais encore journaliste et je continuais à être journaliste.
D'accord.
Et il faut savoir une chose, c'est un métier à temps plein, scénariste. C'est vraiment un métier à temps plein. Très difficile de pouvoir faire ça à côté. Il y en a qui réussissent à le faire. Bravo à eux, franchement, j'ai énormément de respect et d'admiration pour eux, parce que ça demande énormément de travail. Et il a fallu, en fait, c'est lorsque j'ai arrêté la presse, c'est en 2008-2009 que j'ai arrêté la presse, parce que c'était plus possible.
Après combien d'années d'expérience?
Bah, pendant 13-14 ans.
13-14
ans. 13-14 ans, et la majorité passée à Mad Movies.
Oui.
Et
toujours pour Mad Movies du coup.
Ah, là en fait oui, lorsque j'avais fait l'interview de Luciano, c'était pour Mad. Et
c'était pas un numéro spécial, non?
C'était pas un numéro spécial, mais le truc c'est que l'interview que j'avais, elle faisait donc 6 heures. C'est elle méritait hors série à elle toute seule.
Donc t'as collaboré au hors série spécial italien?
Non, c'est mon hors série.
C'est toi qui l'as fait.
C'est moi qui l'ai fait.
C'était une interview à l'italienne.
Je voulais, en fait, à la base, elle aurait été publiée en fait en trois parties à Mad Movies si j'étais resté à Mad Movies, mais j'étais parti de Mad Movies. Et donc, elle est toujours dans mes cartons avec d'autres interviews que je n'ai jamais publiées. Mais donc lorsque j'ai arrêté la presse, j'avais quand même mis un minimum d'argent de côté, etc., en disant ok, bon, maintenant il est temps de mettre en application tout ce que Luciano m'a appris. Et 2 mois plus tard, donc après, j'avais déjà un scénario.
Alors ça racontait quoi l'histoire?
L'histoire de ce scénario là
Oui.
Ce scénario, en fait, c'est le long métrage que je suis en train de préparer, mon premier long métrage.
D'accord. Donc que plusieurs années plus tard.
Voilà. En fait, ce scénario là m'a permis en fait d'être scénariste professionnel. Il m'a permis en fait d'être scénariste à plein temps. Lorsque j'ai fini de l'écrire, en fait, 2 semaines après, j'étais chez Rampacor qui voulait le scénario. Le truc, c'est que ce que j'ai écrit, c'était quand même... C'est un drame urbain qui était très, très violent. Il n'est pas du tout gratuit, il est juste honnête, en fait.
Je pense qu'on va passer un peu de musique, et après, on va continuer à parler encore, tout simplement. Life Force.
Oh, yes. We'll be right back.
êtes en compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Voilà, vous venez d'écouter Life Force d'Henri Mancini. Fatih, qu'est-ce que t'en penses de ce film-là? Est-ce qu'il a bien vieilli?
Oh mon Dieu.
Il date de combien d'années déjà? Au moins une vingtaine d'années, au moins, voire plus.
Plus. Alors, la dernière fois que je l'ai revu, c'était à quoi? C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'était il y a 2 ans.
Et c'est après un coup de vieux terrible.
Terrible. C'est un film qui reste quand même unique parce que c'est un grand n'importe quoi. Non mais vraiment quoi, c'est comment est-ce qu'un film pareil a pu voir le jour?
C'est un film Canon, je crois, non?
C'était un Canon et c'était vraiment l'un des plus gros budgets de la Canon en plus. Et c'est impossible de faire un film pareil aujourd'hui, c'est pas possible.
Réalisé quand même par un réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, quand même.
Tobe Hooper, qui est quand même un cinéaste, un grand cinéaste, Massacre à la tronçonneuse, est son chef-d'œuvre.
Absolument.
Est son chef-d'œuvre. C'est quand même difficile de commencer sa carrière sur un chef-d'œuvre. T'imagines un peu?
Oui, c'est difficile d'être au même niveau après.
Exactement. Et par moments, on a vraiment l'impression que Tobe Hooper cherchait après, en fait, à recapturer, en fait,
L'essence,
le succès de Massacre à la tronçonneuse, mais sans succès.
Ah, il peut pas faire un film d'horreur.
Hein. Le truc, Life Force, c'est qu'après, il a quand même. Donc, vraiment, dans sa carrière, je trouve qu'il y a vraiment des trucs. Celui que j'ai. Par exemple, j'aime beaucoup le deuxième Massacre à la tronçonneuse. Beaucoup ne l'aiment pas. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est totalement différent du premier, et c'est tant mieux. Il a offert, en fait, une expérience totalement différente. On prend un plaisir énorme à le regarder. Je me souvenais, lorsqu'il était sorti à l'époque, oh mon Dieu, ils avaient fait la promo. Tu te rappelles quand quand le film était sorti, Mourouzi en parlait au journal de 13h.
Il y avait quand même Mathilde Amé.
Là, je parle Massacre à la tronçonneuse 2, mais Life Force, oui, c'est vrai, Mathilde Amé qui était dedans.
C'était dans quand une même... tenue bien légère, on va dire.
Plus que légère. On voyait tout.
Qui faisait l'intérêt du film, quand même.
Grave. Et c'est vrai, mais Life Force, mon Dieu, quel ovni.
Qu'est-ce que t'en penses de la carrière de Tobe Hooper ensuite?
Tobe Hooper, après, encore une fois, c'est très inégal. Mais vraiment, quoi, très inégal. Massacre à la tronçonneuse 2, c'est j'aime beaucoup. Fun House, c'est un peu vieilli, mais bon, il y a quand même de bonnes choses dedans. Hein. Poltergeist vieillit bien, mais après, encore une fois, tout comme Mon nom est personne, qui a fait ce film? Steven Spielberg ou Tobe Hooper?
Absolument, voilà, il y a des scènes vraiment bien Spielberg.
Vraiment, c'est le mystère reste entier. Quoi d'autre encore dans sa carrière de Tobe Hooper? Après, il y a vraiment des films qui restent un peu touchants, mais qui sont pas non plus de grands films, comme Combustion spontanée. Il y a des trucs drôles dedans.
Sympa.
Ah, très sympa. L'apparition de John Landis dedans, elle était à hurler de rire. Donc voilà, quoi. C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup, malgré sa carrière inégale, quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, Tobe Hooper, vraiment.
Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé au niveau des scénarios. Donc, tu as créé un scénario, comme tu nous expliquais tout à l'heure,
oui.
Que tu es en train de mettre en place.
Que je suis en train de...
En tant que réalisateur.
En tant que réalisateur. Celui-là, je veux vraiment... je voulais pas le vendre, en fait.
C'est dû à ton précédente expérience.
Non, pas forcément. Quoi qu'il arrive, celui-là, je l'aurais jamais, cédé. Parce qu'en fait, lorsque ce scénario avait retenu l'attention d'Europa Corp, eux, ils le voulaient. Pour le confier à d'autres, mais c'était pas possible. Déjà,
et tu connaissais les noms des metteurs en scène
Ils m'avaient énuméré les noms.
Dans
le tas, il y en avait qu'un seul qui m'intéressait, mais c'était pas pour lui. C'était travaillons sur un autre projet avec ce réalisateur-là, mais pas sur celui-là. Celui-là, j'ai vraiment envie de le faire.
Tu peux nous donner le nom du metteur en scène?
Pas forcément, parce que ça, c'est pour l'instant.
Alors, excuse-moi. Non, mais le fameux metteur en scène qui aurait pu faire ton film à l'époque.
Pas celui-là. Celui-là, je ne voulais pas. Le titre du scénario, c'est Du sang sur le bitume. Et c'était très vite, j'ai dit non, celui-là je ne le vends pas. Là après ça a été, qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux le mettre en scène. Alors ça a été très difficile.
Alors dis-moi, parce que ça fait combien d'années?
Celui-là ça a été en fait, il a vraiment commencé, c'était en 2009, ouais. C'était en 2009 qu'il avait retenu Europa Corp. Et le truc c'est que c'est un petit milieu et tout le monde parle.
Ouais.
Et résultat, ce scénario-là, il a très vite fait le tour en fait des différents modes de prod. Mais vraiment, ça a été assez surprenant. Et beaucoup de producteurs de maisons de prod le voulaient, voulaient faire une option dessus.
Mais beaucoup de gens l'avaient lu, le scénario.
Beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens l'ont lu et se sont dit, mais nous, on veut l'avoir. Et celui, en fait, qui a fini par l'optionner, bah, c'était Thomas Langman, c'était la petite reine, qui l'avait optionné pendant longtemps. Et je devais le faire chez eux. Je devais le mettre en scène.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Et c'était Warner qui devait le distribuer aussi. Bah, le truc, c'est qu'après, Thomas m'a demandé, il me dit, j'ai besoin, en fait, de faire un film là tout de suite. Est-ce que t'as pas un truc qu'on pourrait développer rapidement et qu'on pourrait confier à... Parce que moi, mon film, il n'était pas facile à faire. C'est un premier film, très hardcore. Il fallait, en plus de ça, je ne voulais pas d'acteurs connus. Je ne voulais pas de tête d'affiche, ça aussi, c'était très difficile. Alors que Thomas, lui, il avait vraiment besoin de faire un film avec une tête d'affiche, avec un budget un peu plus conséquent.
Un film et plus, avec, plus commercial, peut-être.
Ouais, plus commercial. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je lui avais proposé trois histoires. Et il voulait prendre les trois, mais c'était pas possible.
Il faut choisir quand même. Hein.
Exactement, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, c'était pas possible. Et donc au final.
Des scénarios que tu avais déjà
c'était...
dans
non, 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 c'était pas les scénarios, ça c'était les histoires.
Des histoires.
Des histoires, et tu les donnais. Bah, après voilà, quoi. C'est, on choisit, et ensuite on peut. C'était avais... ce qu'on appelle les synopsis. Moi j'appelle ça des histoires. Mmh. Et après, la prod donc te paye pour les développer.
Oui.
Et donc voilà. Et
explique un peu aux auditeurs qu'est-ce qu'un synopsis, combien ça comprend de pages.
Nombre de pages est variable, c'est généralement court, mais le nombre de pages est variable. Et tu racontes ton histoire. Il faut que dedans il y ait ton début, ton milieu, ta fin, et un minimum de développement. C'est tout. Après, chacun a sa façon de faire, etc., etc. Et donc Thomas a choisi l'une d'elles, et c'était en fait une histoire qui était titrée Miles. Miles était le nom de mon personnage principal. Et c'était ce qui a donné Colt 45 bien plus tard, en fait.
D'accord.
Et en faisant, en fait, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé à mettre du sang sur le bitume de côté à la petite reine, c'est que je me suis dit, bon, bah, écoute, au moins, je vais apprendre, je vais voir, en fait, je vais voir comment les choses se développent, parce que c'était ma première expérience. Je me suis dit, en tant que scénariste, t'as moins à perdre que si t'étais réalisateur et scénariste, et donc ce serait quand même bien de voir vraiment comment est-ce que les choses se passent, savoir où tu mets les pieds, et voir justement quels sont les pièges à éviter, etc., etc. Et en faisant ça, en fait, bah ouais, tout de suite, ça a été, j'ai vu ce que c'était, quoi.
Alors, quel a été ton parcours, du coup, dans cette démarche immédiate?
Bah, après, si tu veux, le film a été fait. Moi, ensuite, je me suis mis aussi à travailler sur d'autres projets avec d'autres boîtes de prod, avec d'autres producteurs, etc. Ensuite, lorsque le scénario donc, qui était optionné par la petite reine du sang sur le bitume est revenu. M'est revenu, les droits m'étaient revenus, c'était à moi. Donc après, il y a eu d'autres producteurs qui se sont intéressés, et il y en a eu plusieurs, dont ceux qui s'étaient manifestés avant que le scénario finisse chez Thomas Langman. Et au final, bah, j'ai trouvé en fait le producteur, enfin les producteurs avec qui je me suis très bien entendu, et c'était quelqu'un. Pour qui j'ai, c'est des personnes pour qui j'ai un profond respect, et qui font vraiment de bonnes choses, et qui font des films pour les bonnes raisons. C'est donc la boîte Chic Film de Marco Cherki et Laurent Bourrachon, et qui sont en fait les producteurs du Prophète de Jacques Audiard, de Nuit Blanche, de Fred Jardin, ils ont aussi produit le remake avec Jamie Foxx, Michel Monaghan et Gabriel Union. Et là, dernièrement, ils ont eu un succès critique et commercial avec Love and Friendship de Whit Stillman, qui est super, avec Kate Beckinsale et Chloé Sevigny, film qui est vraiment super. Voilà, quoi,
Donc c'est des producteurs...
C'est des producteurs solides.
De qualité.
C'est des producteurs de qualité, c'est des producteurs solides, c'est des producteurs en fait qui font ce métier pour les bonnes raisons. Ils veulent faire de bons films, voilà. Et donc j'ai décidé de signer avec eux. Et surtout, ça a été, ils ont accepté le fait que je sois en fait réalisateur. Alors c'est mon premier film. Et le fait que bah oui, il fallait surtout pas trahir en fait l'honnêteté du scénario. Donc quitte à faire un film qui risquerait d'être interdit au moins de 16 ans, bah faisons-le.
Ils se sont reposés sur quoi pour te faire confiance en tant que réalisateur?
Bah j'avais écrit le scénario. Ouais. C'était donc mon histoire.
Parce que tu étais porteur du projet.
J'étais porteur du projet, mais après il y avait énormément de paramètres qui faisaient en fait que c'est très difficile. Personne en fait pouvait faire, aurait pu faire ce, ne peut faire ce film, vu que ce film-là en fait se situe en majeure partie que dans des cités qui sont considérées comme sensibles dans l'ouest de la France. Le film se passe en grande partie dans le Val-d'Or d'Argenteuil, dans les cités justement comme la cité des Grèves, de Colombes, les Quatre Chemins, les Caniboules de Nanterre, la cité des Indes de Sartrouville. Ce sont des cités en fait que je connais très bien parce que j'ai de la famille là-bas, j'ai grandi là-bas.
C'est des
là-bas.
Cités très sensibles quand même.
Ah, c'est voilà quoi. Et simplement donc, y aller, je peux faire le film là-bas sans problème. Mais après voilà, les grands frères ils sont clairs. Toi tu fais le film, personne d'autre. c'est ton film. T'es chez toi ici, y a aucun souci quoi. C'est, on n'accepterait pas quelqu'un d'autre. Et ça aussi, ça c'est l'un des paramètres qui fait que.
Est-ce que ce serait pas que... plutôt le paramètre?
Non, je pense pas, parce qu'après encore une fois, c'est Marco et moi, Marco, Loran et moi en fait, on a aussi, on partage en fait. On a vraiment des discussions en fait assez
une cohésion d'équipe.
Oui, non, vraiment quoi. C'est-à-dire j'ai expliqué clairement pourquoi j'avais besoin de faire ce film.
Tu peux nous dire pourquoi du coup?
Je préfère là pour le coup, si je rentre dans le détail et tout, ce serait aussi je devrais aussi révéler si tu veux le contenu du scénario de l'histoire. Oui. J'ai pas envie.
Donc ça sera pour une prochaine fois qu'on le filme.
Ça prochaine fois, voilà. C'est on va laisser la surprise donc au spectateur une fois que le film donc sera fait là, il a déjà passé à certains stades des développements cruciaux quoi, et on continue. Donc,
tout simplement. Donc, voilà, nous allons écouter Patton de Jerry Goldsmith.
Thank you.
nous sommes avec Fatih Bédiard, qui va continuer à nous raconter toutes ses aventures. Raconte-nous un peu, parce qu'il y, y a toute une légende autour de toi. Quand tu l'es à Movies 2000, qui était spécialiste des noms chinois que tu connaissais par cœur.
Ah bah ça, il n'y avait pas le choix.
Et puis, tu étais un spécialiste des phrases de films, des répliques de films.
Ah, y a quand même un truc à préciser, parce que Christophe, lorsqu'il était là la semaine dernière, il dit ouais, Fatih, il avait sorti justement les titres en chinois, etc. Et je me souvenais de ce jour-là, mais en fait, il faut savoir une chose, Patrick, et toi tu le sais, parce que tu m'as connu, j'étais
bien
bon.
Sûr.
Et à cette époque-là, donc, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien du tout.
Précisons-le. Et surtout, c'est que les films qui nous intéressaient n'étaient pas distribués en France. Quand j'ai dit les films qui nous intéressaient, parce que nous, on a vite fait le tour de ce qui était sorti et disponible en France en matière de cinéma asiatique.
Il n'y avait pas grand-chose. Hein.
On avait déjà fait le tour. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à cette époque-là, la personne qui avait vraiment le monopole, enfin, entre guillemets, des films chinois, des films hongkongais distribués en France, c'était René Château. Et René Château ne voulait pas acheter les films de John Woo. Ça ne l'intéressait pas. Il ne voulait pas acheter les comédies qui ont été faites avec les frères Hoy. Ça ne l'intéressait pas. Il ne voulait pas de ça.
Il voulait quoi que Bruce Lee
c'était... Bruce Lee, il ne voulait que Jackie Chan et, dans une moindre mesure, Sammo Hung. Il avait gardé, justement, je crois que l'un des derniers titres qu'il avait acheté pour distribuer en France, c'était Eastern Condors. Ça et Dragons Forever, et ça remonte déjà. Et à cette époque-là, ben, si tu voulais
voir
ces films-là, ben, t'avais pas le choix, t'étais obligé d'aller à Belleville. Moi, en premier temps, c'était Belleville, et ça a été le 13e. Et le problème, c'est que en allant là-bas, donc, c'est les personnes donc qui ne parlent que le chinois et qui surtout ne connaissent pas les titres en anglais et qui surtout ne sont pas cinéphiles. Et donc voilà, il y a rien à faire. Et à cette époque-là, donc, j'ai de la famille, donc ma tante, et mon oncle et mes cousins sont toujours d'ailleurs là-bas. Ils habitent à Villa Faucheur, du côté de Rupia, à Belleville. Et en descendant en fait la rue, il y avait une espèce de il y avait des vidéoclubs. Chinois et qui était mais les affiches étaient hallucinantes, genre t'avais toutes les devantures, que les affiches de films que t'avais envie de voir. Et c'était ces films-là, en plus de ça, dont on parlait dans les rapports du marché du film, que ce soit le MIFED ou à Cannes, dans Mad Movies, dans Impact,
dans ou, l'écran.
Dans l'écran chez toi, etc. Quoi. Et simplement, voilà, quoi.
C'était magique.
Voilà, il fallait les voir, ces films-là. Et le truc, c'est que. Quand tu leur demandes donc après un titre en anglais, ils te comprennent pas, et puis après tu leur présentes le truc, mais c'est le film que tu veux, tu ne l'as pas à l'affiche, tu sais juste qu'il y a cet acteur qui est dedans, etc. C'est très difficile après pour eux de trouver le film que tu cherches. Et Dieu merci, en fait, j'avais mon père a eu plusieurs bars en banlieue et sur Paris. Et l'un des bars qu'il avait en fait à Colombes, et nos voisins étaient chinois. C'était les propriétaires d'un restaurant qui s'appelle le Sing Chuan à rue Gabriel Péri, que j'embrasse très fort d'ailleurs parce que je leur dois énormément. C'était la, c'était Xiao Mei, son mari Ming Chen, et son père Papi, qui eux m'ont en fait,
t'en fais dans l'éducation,
ils m'ont appris en fait. C'était plus parce qu'en fait ils venaient de Chine populaire, ils venaient de Shanghai. Et ils parlaient le mandarin. Ming Chen et Xiao Mei parlaient le mandarin, mais Papi parlait le cantonais. Et il faut savoir une chose, c'est que le mandarin est extrêmement difficile à apprendre. C'est vraiment super dur. C'est très difficile phonétiquement de distinguer les sons.
Le mandarin, ça chante.
Voilà, exactement. Et alors que c'est beaucoup plus facile en fait d'apprendre le cantonais. Enfin, quand je dis ça facile, hein, c'est
entre, guillemets, quoi.
Entre guillemets. Hein. Et donc Papi m'apprenait.
Ah, il t'apprenait carrément.
M'apprenait le cantonais. Et surtout, il m'apprenait à l'écrire aussi. Et en fait, il m'apprenait à être indépendant. Et je demandais donc à Papy, qui parlait aussi le français, je veux trouver ce film, etc. Il n'y avait pas Internet ni quoi que ce soit. Et simplement, en me donnant déjà les titres, enfin déjà, en me donnant en fait les noms chinois, par exemple, là-bas, dans ces boutiques-là, ils ne savent pas qui est Sammo Hung. Par contre, tu leur dis Hung Kam Po.
Ils connaissent.
Voilà, tu leur demandes, je sais pas.
Jet Li.
Jet Li, c'était Lien Jie. Il y avait plein d'autres gars. John Woo, ils connaissaient pas. Ils connaissaient Wu Yusen. C'est tout. C'était super difficile de se faire comprendre. Et donc, il fallait. Et donc, Papi me donnait. il m'apprenait en fait tout ça, il m'apprenait à l'écrire. Donc quand j'allais dans ces boutiques-là, bah maintenant voilà quoi, j'avais les outils pour me faire comprendre.
Et alors est-ce que c'était un succès ou pas ?
Bah ça a marché, Dieu merci, ça a marché parce que je me suis mis tout d'un coup à voir les films que j'avais envie de voir. La communication en tout cas, il y avait moins de barrages de communication. C'était plus facile de communiquer, Dieu merci. Et donc à force de s'habituer, tu te mettais en fait qu'à sortir les titres en chinois. Et donc à un moment donné, c'est vrai, lorsque j'étais lorsque j'allais à Movies une fois je me souviens d'ailleurs du jour
où t'as rencontré Christophe.
Où Christophe en fait ce jour précis, c'est vrai que je devais avoir 13 ans, j'étais môme. Et il y avait donc Christophe qui était là, il y avait Guy Giraud qu'on embrasse très fort.
Bien préciser que c'était Christophe Lemaire, voilà, l'invité de la semaine dernière de l'émission.
Et donc il y a Christophe, Guy Giraud, il y avait Gérard Delorme qui était là. Et il y avait aussi Didier Alouche, qu'on embrasse très fort aussi.
Voilà, qui est à Canal+, voilà. Et que vous pouvez voir assez souvent.
Exactement.
En bas des marches de Cannes en particulier.
Et donc, il parlait d'un... En fait, je crois... En fait, voilà ce qui se passait. On parlait en fait d'un film que tout le monde voulait voir, mais qui ne passait pas, qui n'était pas passé en fait à la rétrospective. Tu sais qu'il y avait eu à Chaillot à l'époque où il y avait vraiment tous les un paquet de films hongkongais qu'on avait vu là-bas. Ouais. On avait vu Crime Story, on avait vu On the Run, on avait vu les Better Tomorrow. C'était incroyable. Cette rétro, c'était au tout début des années 90. Et bref, ils avaient sorti ce titre-là. En fait, c'était trompé sur le titre en anglais. Et je les ai rattrapés sur le titre en anglais, mais en leur sortant aussi le titre chinois.
Et alors là, ça les a estomaqués, c'est ça?
Non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait Didier qui m'avait regardé de façon bizarre. Et puis il y avait,
il a dit, mais tu parles chinois, c'est ça?
Christophe, etc. Bah, après, t'avais, Gérard aussi, mais après, il me demandait, il était, en fait, tu viens d'où? Tu viens vraiment d'Argentin? Je dis, oui, non, je viens d'Argentin,
on parle après, autre chose que chinois, Argentin.
Il me disait, il était algérien, t'as plutôt, en fait, quelqu'un qui vient des Philippines.
L'algérien qui parle chinois.
Et c'est vrai que c'est très, en même temps, tu sais que l'inverse existe, et ça m'a surpris d'ailleurs, vu qu'il y a une vague d'immigration chinoise extrêmement importante en Algérie.
Oui, parce que tout simplement, ils font les travaux en Algérie.
Exactement, ouais. Et donc, ouais, voir un chinois qui parle arabe, crois-moi,
c'est quelle est sa besoin. Ah, c'est son besoin de cacahuètes, hein, comme on dit.
Mais vraiment, quoi, c'était assez surprenant. Et bref, c'est vrai que ce jour-là, donc, je les avais rattrapés sur le titre. Et Didier, après, me posait des questions. Il disait, mais comment tu connais tout ça? Et donc, je lui ai expliqué. Et grosso merdo, en fait, c'était ça a été en fait le premier pas. Comment est-ce que je me suis retrouvé à MAD progressivement? C'est qu'après, les gens me demandaient en fait de compléter les filmographies. Et toi d'ailleurs?
Oui, bien
quand
sûr.
Quand on a fait Lasermania, les filmographies que j'ai faites.
Absolument. Lasermania était un magazine sur le laserdisc dont j'étais rédacteur en chef. Et bien sûr, j'avais demandé à Fatih de venir et tous les amis pour faire ce magazine.
Je complétais les filmographies comme ça parce qu'il y avait des titres qui n'étaient qu'en chinois.
Mais tu sais que dans les filmographies, il y a des gens qui mettaient des faux noms.
Exact.
Dans certaines filmographies pour voir si on piquait leur filmographie dans les grands magazines.
C'était grave. Et surtout, ce qui était genre par exemple, je me souvenais, je décryptais aussi ça m'aidait aussi à décrypter les génériques. Genre par exemple, il y avait beaucoup de gens qui, lorsqu'on parlait de Jackie Chan, beaucoup en fait ne parlaient pas des films sur lesquels Jackie Chan avait travaillé, par exemple en tant que producteur ou en tant que chorégraphe de scène d'action. Les gens ne savaient pas. Et pourtant, ces films-là étaient super, si tu vois, ils avaient vraiment une super teneur en action. Mais les gens passaient à côté. Parce qu'il n'était spécifié nulle part que Jackie Chan avait travaillé sur le film.
Voilà, si tu avais cité le nom de Jackie Chan, tout le monde aurait été voir.
Voilà, et c'était ce qui a fait que, au tout début, vraiment, il fallait que j'apprenne, donc j'ai appris sur le tas, grâce à Papy, donc, qui m'avait appris le cantonais. C'était très difficile, en fait, après j'arrivais à suivre les conversations, mais ça restait quand même très difficile, ouais. Parce que, franchement, les Chinois qui parlent le cantonais, ils le parlent super vite.
Vite.
Super vite.
Mais qu'est-ce qu'il en reste du cantonais maintenant?
Il est super rouillé, il est vraiment super rouillé. La dernière fois que je l'ai utilisé, d'ailleurs, ça a été lorsque j'avais fait une interview de Jackie Chan, et il y avait notre ami Yvon Meyer qui était là. C'était il y a longtemps, c'était il y a très très longtemps, c'était lorsqu'il était venu faire la promo de New Police Story. Et ça a été super, l'interview était mortelle, c'était vraiment.
Et t'as réussi à tenir en chinois?
J'ai pas réussi à tenir en chinois. En fait, c'était bizarre parce qu'il avait une interprète, mais qui ne parlait que le mandarin. Alors ça c'était bizarre. Non, le truc c'est qu'à la base en fait il y a Yves.
C'est quand même assez drôle, ouais. Au lieu qu'elle parle en anglais, ce qui paraissait logique.
Là pour le coup, Jackie Chan en fait était plus à l'aise avec le mandarin qu'avec l'anglais.
Ah bon,
exactement.
Oh, c'est marrant.
Et bref, Il a la vidéo, il a la vidéo complète. Je rebondissais en fait avec Jackie Chan souvent parce que je réussissais par exemple à parler de gens qu'il connaissait que les autres ne connaissaient pas. Et donc c'était, il y avait un truc qui s'était passé entre nous deux durs, alors que c'était une table ronde. Et après en fait, lorsqu'on avait fini la table ronde, il y avait Willie Chan, son manager qui. Mec adorable, qui est venu me féliciter, qui m'a dit, mais vraiment, merci beaucoup.
Ça n'a pas arrivé tous les jours, les gens te font des interviews.
Non, et Jackie Chan me disait, il m'avait dit, si j'avais su, j'aurais fait une interview qu'avec toi, ce qui m'avait surpris.
C'est sympa, quoi.
Non, c'était vraiment super gentil. Et puis après, on s'était retrouvés juste à côté, et il avait signé donc des posters pour mes neveux, pour mes nièces. Et adorable. Et en fait, on a commencé à parler un peu quand et là, tout d'un coup, il m'a regardé d'une façon un peu bizarre.
Jackie Chan est comme dans les films, il est adorable.
Exactement. Et il est absolument adorable. Il est génial. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire. C'est quelqu'un qui ne te dit jamais non. Il est super cool, mais vraiment c'était un rêve de monde, surtout de le rencontrer. Ouais, ça,
absolument. J'ai eu la même chose, les mêmes réactions.
Ah oui,
que toi.
J'imagine. Donc voilà quoi. Et c'était donc ça a été cette passion du cinéma hongkongais et le fait que il fallait donc se faire violence et apprendre le cantonais pour pouvoir se faire comprendre et pour pouvoir continuer à voir ces films là qui te passionnent quoi. Et c'est ce qui fait que après quand je me suis retrouvé à Movies de vie, ce genre-là.
Donc, c'est là est partie la réputation, c'est ça?
C'était là. En fait, après, c'est bizarre parce que, en allant dans d'autres boutiques, dans le 13e.
Ça t'a suivi?
Ça m'a suivi, c'est qu'après, il y avait, je me souvenais, j'avais croisé d'autres gars, justement, Julien Carbon, par exemple, ouais. Que l'on salue au passage. Je le croisais aussi justement à l'époque.
Ainsi que Laurent.
Ainsi que Laurent Courtiot. La première fois que j'ai rencontré Julien était tout seul. Et en fait, on a vraiment fait connaissance à Movies 2000 justement. Mais on se croisait en fait dans les. C'était les mêmes boutiques. Il n'y en avait pas 36, pas très.
Il y en avait deux.
Il y avait aussi les petits vidéoclubs en fait. Mais c'est ça aussi qui était bizarre, c'est que les gens n'allaient pas dans ces vidéoclubs là parce qu'on ne pouvait pas parler en parce qu'on ne pouvait pas en fait. Communiquer avec eux tout simplement et généralement les gens après allaient à New Top ou ils allaient à Musica et moi j'allais en fait dans d'autres, ça c'était dans le 13e
voilà.
Mais à Belleville en fait il y avait beaucoup d'endroits dans lesquels on allait en fait, mais j'étais vraiment le seul étranger. J'étais le seul qui n'était pas chinois.
Comment ça s'est passé? Parce que quand ils t'ont vu arriver, ils n'ont pas eu un petit recul, comme on dit.
Si, bien sûr.
Je les connais aussi. Alors.
Ah, on est tous passés par là. Mais après, en fait, lorsqu'ils ont vu que je faisais vraiment l'effort d'aller vers eux, c'était ce qui a tout de suite débloqué.
Qui a déclenché un peu.
Et ça a été décisif. Dieu merci. C'est ce qui a fait après. On est devenu cinéphile comme ça. Enfin, voilà. Quoi.
Tout simplement.
Voilà.
Avec l'Empire of the Sun.
Afraid of no ghosts. likes the girls. I ain't afraid of no girls. You're gonna call
Ghostbusters.
If you have ghosts of a freaky ghost, baby, you better call
Ghostbusters.
Ow! Let me tell you something. Busting makes me feel good. Afraid of no ghosts. Don't get caught alone, no, no.
Ghostbusters!
When it comes through your door, unless you just walk some more, I think you better call
compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma. Voilà, vous venez d'écouter bien sûr Ghostbusters, Doré Parker. L'Empire of the Sun, ça sera juste après. Mais d'abord, nous parlons avec notre ami Fatty,
ouais,
Média.
Patrick.
Hein ? Alors, ça fait bien longtemps qu'on se connaît ?
Bah, ça fait très longtemps, mon Dieu, ça va faire...
Une trentaine d'années, non ?
Oh, je dirais un peu moins, je dirais, ça fait 25 ans, je dirais. 25 ans.
Les vieux de la vieille. Hein.
Ouais, les vieux de la vieille. En fait, quand j'avais vraiment... Quand je gravitais dans le milieu, ça, c'est un petit milieu, hein. Quand je gravitais dans ce milieu-là, j'avais 12-13 ans, quoi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Patrick, c'est comme ça que j'ai rencontré d'autres personnes qui ont énormément compté
Julien,
pour moi et qui m'ont permis de faire ce métier. Il y a surtout Jean-Pierre Putters, il y a surtout Didier Alouche, qu'on salue et qu'on embrasse, JP, Jean-Pierre. Et ça a été quelque chose. Et puis après, il y a eu tous les copains. Il y a eu donc Julien, il y a eu aussi Christophe Lemaire, Guy Giraud, Gérard Delorme, notre ami Stéphane Dardarian, à qui on souhaite un bon rétablissement.
Absolument,
et qu'on embrasse très fort. Voilà, Stéphane aussi.
Parce qu'il est très très malade.
Exactement, mais
et
ça va.
Il viendra dans l'émission quand il aura un petit peu, mais nous la promis.
Il va venir dans l'émission, il va vite se remettre.
Voilà. Il nous écoute tout le temps, je l'ai souvent. Au téléphone, et puis on essaie de lui remonter le moral un peu,
voilà,
dans les moments difficiles.
Puis Stéphane, il a toujours été là pour nous, justement. Ça a été quelqu'un vraiment.
Raconte-nous un peu qui est Stéphane derrière.
Stéphane, ouais, tu vois, tu parles de légende, j'en suis pas une. Tu vois, quelqu'un comme Stéphane, il l'est. Quelqu'un comme Stéphane, oui, c'est pas rien, quoi. C'est quelqu'un qui est quand même reconnu à juste titre comme étant l'un des spécialistes de Mario Bava.
On l'appelait Monsieur Bava.
C'était un spécialiste du cinéma italien. Il a
beaucoup de westerns. Hein.
Beaucoup de westerns. Grâce à lui aussi, justement, que j'ai fait une autre rencontre. Une grande rencontre décisive, ça a été Giulio Questi, le réalisateur de Tiens encore si tu peux, qui est un western magnifique avec Thomas Millian, et qui avait fait deux autres films totalement surréalistes, La mort a pondu un œuf, avec Jean-Louis Trintignant et Gina Lollobrigida et Arcana. Et ça a été Stéphane donc qui m'a présenté Giulio Questi, qui est donc devenu après un très bon ami. Il a tout fait, Stéphane. Stéphane, il a donc contribué au hors-série sur le cinéma italien. C'est quelqu'un qui a écrit des super textes. Il a contribué vraiment à plusieurs publications. Il a.
Ben maintenant, il achète les droits de film pour la télévision et pour le cinéma.
Exactement. Et l'Ilium audiovisuel, il fait ça tout seul comme un grand. Il se débrouille très bien. Puis c'est quelqu'un surtout qui fait les choses pour les bonnes raisons, c'est quelqu'un qui fait les choses par passion, Stéphane. Mais vraiment. Et puis indépendamment de ça, c'est surtout le numéro 2 de Gaspard Noé, quoi. C'est son collaborateur de longue date.
qui a participé depuis... à tous ses films. Hein.
Ah, il a travaillé sur Seul contre tous, il a travaillé sur Irréversible, il a travaillé sur d'autres projets avec Gaspard. Il l'a fait aussi, il l'a utilisé comme acteur. Il était dans, il avait un rôle assez mémorable dans Seul contre tous, avec Philippe Naon et le patron du bar joué par Gérard Ortega. Et aussi dans Irréversible, il faisait l'un des clients du rectum. Mon Dieu, lorsque Vincent Cassel cherchait Joe Prestia dans les backrooms, il y avait Stéphane en cuir.
Mais Stéphane va raconter plein d'anecdotes. C'est incroyable tout ce qu'il a croisé et vécu.
Stéphane, il a une vie incroyable. Il a surtout, on a eu des crises de rire. Mémorable. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Les soirées à Cannes. Patrick, toi, t'as des soirées mémorables à raconter avec lui à Milan.
À Milan, c'était chaud. Je ne raconterai rien, mais on verra quand il viendra s'il nous racontera toutes ces belles anecdotes. Malheureusement, le marché du film n'existe plus à Milan. Parce que le marché du film américain a déplacé sa date en même temps pour tuer le marché du film en Italie. Qu'est-ce qu'un marché du film?
C'est un endroit rêvé pour nous. C'était là-bas vraiment où on a pu découvrir des perles. C'était mais vraiment quoi, Patrick, tu te souviens les...
Ben bien sûr, mais parce que en fait, qu'est-ce qu'un marché du film?
Bon, on achète les films en fait. Pour
voilà, c'est voilà. Tous les distributeurs français essayent de trouver des nouveautés et achètent les films en les voyant au marché du film.
Absolument.
Au MIFED. Et ce qui nous a permis à nous, en étant présents au MIFED, de voir plein de films en même temps que les acheteurs.
Oh là là, c'était incroyable les films qui passaient au MIFED, mon Dieu. Et il y a eu des films, c'était surtout dans les reports qui étaient faits dans Mad Movies et dans Impact. Et aussi dans l'écran où on pouvait lire justement ce qui était passé,
tous les films de qualité qu'on pouvait peut-être voir dans l'avenir, parce qu'on parlait de films que personne ne pouvait voir.
Exact. Et il y a encore beaucoup de ces films là qui sont inédits, qui sont pas sortis,
qu'on peut pas voir.
C'est incroyable, il y en a plein. Et c'est vrai, tu vois, on parle encore de films hongkongais, même si il y a eu pas mal de sorties grâce à Metropolitan.
Le cinéma hongkongais maintenant est dominé par le cinéma coréen. Exactement, donc on en parle beaucoup moins qu'avant.
On en parle beaucoup moins, mais même à l'époque, si tu veux, on avait ouvert les vannes et qu'on sortait pas mal de films chez Metro, chez 7-7. On n'a pas tout sorti. Il reste encore plein de films, si tu veux, qui n'ont pas été distribués en France, et c'est bien dommage. Et oui, mon Dieu, le MIFED, beaucoup de films, et puis le marché du film de Cannes, Patrick.
Eh oui, que de beaux souvenirs, avec la réunion de tous les fanzineux.
Exactement, oh mon Dieu, c'était quelque chose.
Et souviens-toi, au Festival de Paris, qu'on était tous réunis, au restaurant en face, était au moins, je sais pas, 45 ans, tous les fanzineux.
Il y avait ça, mais il y avait aussi plein de trucs, Patrick. Souviens-toi aussi ce qu'on faisait lorsqu'on sortait de la cinémathèque, à l'époque où la cinémathèque était sur les grands boulevards. Lorsqu'on voyait vraiment certains films, encore une fois, c'était toujours la bande de copains qui partait au bar en face. Et on faisait des trucs pas possibles. À un moment donné, on avait même improvisé un jeu, mais totalement surréaliste.
On veut tout savoir, Fatih.
Non, en fait, on était plusieurs. À un moment donné, on avait joué une tournée, en fait. Qui allait payer la tournée? Et on avait mis au point une espèce de jeu un peu spé. Genre, quelqu'un donner le nom d'un acteur, la personne d'à côté donnait le titre d'un film avec cet acteur, et la personne suivante devait donner en fait le nom d'un autre acteur qui a joué dans ce film, et ne pas briser la chaîne. Et celui qui brisait la chaîne, c'était lui qui se mettait à payer la tournée.
Et alors, je suppose que t'as jamais perdu,
j'ai
payé
jamais
la
perdu.
Payé tournée, hein. C'est ça, Patrick.
C'est vrai. Ça, c'est vrai.
Te connaissant.
Ça, en fait,
c'est un bon plan pour toi, ça.
Bah, on l'avait fait une fois à la cinémathèque, mais à un moment donné, c'était plus fun, c'est genre, c'est toujours les mêmes. Mais on l'a pas fait beaucoup, en fait, à la sortie des cinémathèques. On l'a fait beaucoup à Movies de Ville, on l'a fait beaucoup à Mad Movies aussi, à Rue Mansart. La rédac, mon Dieu, cette rédac à Rue Mansart qui me manque énormément. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était belle, cette rédaction.
De toute façon, là, on va continuer à parler évidemment de ce qui va se passer à Metaluna, qui est la dernière boutique, on va dire, de cinéma fantastique.
Exactement, le dernier bastion.
Et donc voilà, qui est sous 7 rue Danté.
Ça, exactement.
Et dans le 5e arrondissement. Donc je fais un peu de promo parce que samedi prochain, le 5, à partir de 15h jusqu'à 18h. Il y aura la dédicace du livre sur Starfix dont on a amplement parlé la semaine dernière.
Ouais.
La plupart des gens de Starfix, ouais, dans la grande époque, on va dire, seront là pour dédicacer les livres. Donc vous prendrez un livre et vous aurez au moins 5, 6, 7 dégâts, je sais pas combien pour l'instant.
Et puis, voilà les ténors, quoi. C'est quand même c'est des anciens.
Et puis vous aurez la chance de les voir, de leur cirer la main, de parler avec eux, parce qu'ils adorent parler de cinéma. Ce sont des passionnés comme nous.
C'est des passionnés. Ils sont toujours restés passionnés, toujours. Et c'est un plaisir de les écouter parler cinéma.
Et puis il y a Bruno Terrier qui est un grand spécialiste de cinéma. Exactement. Avec lequel on peut passer des heures à parler.
Pas des heures avec Bruno à parler. Et puis encore une fois, Bruno, c'est quelqu'un qui a toujours été enthousiaste par rapport au cinéma qu'il aime. Bruno, s'il y a un truc, là je parle de Bruno le cinéphile.
Ouais, ouais.
Bruno le cinéphile, il a toujours partagé ses coups de cœur. Alors après, c'est vrai que sur Facebook, sur sa page, il a tendance à partager ses coups de cœur le mercredi.
Il aime bien critiquer, à mon avis.
Mais c'est quelqu'un qui a toujours voulu, qui a toujours fait énormément.
Absolument. Et puis quand vous allez chez lui, il vous prêtait pas mal de films.
Voilà, c'est quelqu'un qui savait être conseiller. C'était quelqu'un en plus de ça, il était au fait de tout ce qui était sorti, de tout ce qui était disponible. Il te disait, voilà, exactement quelle édition il te fallait, prendre celle-là et pas une autre, etc., etc. Et il était super. C'est quelqu'un qui est précieux, Bruno. Les gens, mais vraiment, ils se rendent pas compte de la chance, en fait,
qu'ils ont à aller à Mutaluna et pouvoir discuter avec lui.
Discuter, mais surtout d'avoir une personne aussi compétente.
Absolument.
C'est énorme. Un mec comme Bruno, c'est de l'or en barre, quoi. Et dire qu'après, il y a des gens, si tu veux, qui boudent, si tu veux, le fait de ne pas aller à Mutaluna, vraiment, et à télécharger bêtement. Alors que non, quoi.
Alors qu'il y a des beaux films. Exactement, dans des belles pochettes, voilà, avec des éditions, avec des suppléments.
Exact, absolument. Et puis Bruno sait ce qu'il commande. Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui commande à l'aveuglette. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il achète pour pouvoir le revendre. Et je continue d'acheter chez lui tout le temps.
De toute façon, je crois que tu passes tous les jours, c'est ça, non?
Pas tous les jours, en fait, parce que.
C'est ce qu'il m'avait dit, Bruno.
En fait, je passe souvent parce que mon frère, en fait, a un pub juste à côté, à Saint-Michel. Je fais la promo pour la famille, hein. Rue de Hautefeuille, hein.
Profites-en, voilà, vas-y.
Exactement, ouais. Exactement. Le gentleman, c'est chez moi.
C'est soirée, voilà. Pour moi, hein.
Et donc, je vais voir mon frère et mon neveu souvent, donc, dans ce bar. Et puis surtout, j'ai mes bureaux. Qui sont pas très loin non plus. Enfin, les bureaux de Chiquefine qui sont à Bastille, mais vu que je fais tout le temps mes trajets à pied, j'aime bien faire un crochet pour faire une bise à Bruno, quoi. Parce que c'est un copain.
Vous aurez la chance de le voir, surtout de l'entendre, en tout cas de le voir en allant à Mutaluna, mais de l'entendre puisqu'il viendra nous voir dans une émission. On fera une émission spéciale sur Mutaluna et Bruno, qui va nous raconter énormément d'anecdotes.
Il a énormément d'anecdotes à raconter, Bruno. Bruno, mon Dieu, c'est pas des anecdotes, c'est des dossiers qui va sortir.
Donc il va passer nous voir, vous inquiétez pas, j'en ai déjà pas mal parlé.
Il faut.
Et d'ailleurs, il y a une adaptation possible par Oliver Stone d'un de ses dossiers.
Ah, ben ouais.
Alors, toujours chez Mutaluna, puisque le 12, Jean-Michel Costa va venir avec son nouveau DVD, avec tous ses courts-métrages, tous ses arrêts en gros. Et c'est le nouveau DVD. Axan avait sorti en 82 la cassette. Là, il y a des petits suppléments. Et il a passé un an de travail dessus. Ouais, et nous sommes tous fiers de la sortie en DVD,
ouais,
de tous ses cours. Et il sera là le 12 à Mutaluna.
Eh ben voilà.
Le 12 novembre, il sera très fier de vous rencontrer. Il aime beaucoup parler de ce qu'il aime, comme nous tous.
Ouais, comme nous tous, exactement.
Voilà, c'est un grand passionné. Voilà. Et ça sera le 12, donc une semaine plus tard après Starfix. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent à Mutaluna.
Exact. Mais il se passe tout le temps plein de choses. Il faut juste que les gens viennent, tout simplement.
Voilà, tout simplement. Qu'ils poussent la porte.
Qu'ils fassent l'effort d'eux. Alors après, je peux comprendre que c'est très dur pour certains, vraiment, surtout, je pense.
De venir jusque-là, peut-être, pour certains qui sont loin, en province, en région parisienne.
Exactement. Ceux qui viennent de province, ceux qui viennent de banlieue, qui, en plus de ça, travaillent, ont des heures pas possibles, etc., et qui sont aussi parents, donc c'est très difficile de pouvoir trouver le temps, mais voilà, quoi, ceux qui font l'effort, c'est récompensé. Ils ne viennent pas pour rien.
Absolument.
C'est vraiment bien. Mais je comprends justement que ce soit dur, mais bon, voilà, quoi.
Est-ce qu'on peut redire l'adresse du coup de Mutaluna et puis la date de l'événement?
Donc c'est le 7 rue de Dante.
7 rue de Dante.
Voilà, dans le 5e arrondissement, à côté de Saint-Michel.
Et c'est une information qu'on va retrouver sur le site internet de.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Bien sûr, c'est très important. Donc, le 5 ce samedi à partir de 15h. Exceptionnellement, parce que d'habitude les dédicaces commencent à 16h, invitez Luna. À 15h, vous pourrez rencontrer tous les gens de Starfix, pouvoir acheter le livre et le faire dédicacer. Tout simplement.
Il y aura tout le monde.
Enfin, il y aura tout le monde. Donc Christophe Lemaire qui était là la semaine dernière.
Il y aura Christophe Lemaire, il y aura notre ami François Cognard, notre
Hélène Méric,
Hélène.
Patrice Giraud sera
là. Il paraît, ouais, justement. Tout le monde est en fait le seul. Enfin, voilà, a priori, je sais pas si Christophe. Enfin, Christophe Gant.
Par contre, tu vois, je sais pas où ils vont les mettre parce que c'est pas super grand.
Grave, c'est pas
la place, normalement, c'est deux personnes.
Ouais, et puis
alors, je sais pas,
ça,
ils vont mettre plusieurs tables. Je sais pas comment ils vont
se. À mon avis, je pense que ça va déborder dans la rue. Il faudrait. Puis il y a Jean-Pierre qui va être là aussi.
Ah oui, j'avais oublié. Jean-Pierre sera là.
Exactement, Jean-Pierre Puter sera là.
Monsieur Mad Movies. Et il sera, il aura préparé des petites choses.
Ah, il aura préparé des petits fours. Des petits fours. Il aura préparé pas mal de choses.
Donc, vous viendrez en même temps déguster.
Exactement.
C'est bien faire Jean-Pierre.
Et puis voilà, c'est
que du bonheur.
Il y aura que de bonnes choses à partager. Voilà, ce sera tout sera là. Et puis c'est quand même cool.
Et puis voilà, d'avoir donc tout le monde, moi je serai là à partir de 15h, voire avant. Donc on pourra tous discuter, boire un verre, faire nos dédicaces avec tous les gens de Starfix,
avec tous les copains,
et parler évidemment de choses qu'on aime et qu'on adore, tout simplement. Voilà, on va terminer sur cette belle émission. Ouais. Merci Fatih Bédard d'être venu.
Merci à toi.
La semaine prochaine, c'est sympa. Et la semaine prochaine, nous aurons donc les protagonistes de Virtual Revolution, le film qui est au cinéma, un film de science-fiction français.
Ouais.
Nous aurons un acteur, Maximilien Poulain, et le producteur exécutif du film, qui s'appelle Monsieur Bierzewicz. J'espère que j'ai bien prononcé.
Olivier Bierzewicz, effectivement, le producteur exécutif
du film. Donc, il va tout vous raconter sur l'épopée du film, parce que monter un film de science-fiction en France, c'est pas qu'une petite aventure. Et voilà, peut-être qu'il y aura encore une personne du casting, on va voir. Mais tous ces gens-là seront là, le film est encore en salle, allez le voir. Et ça sera assez passionnant de les écouter, je dirais, comme les deux précédentes émissions. Merci à vous tous.
Merci
Fatih, merci William, merci Abou qui est le technicien et l'âme de la radio, je tiens à le préciser. Et à la semaine prochaine, nous allons terminer par l'Empire of the Sun de John Williams. Compagnie de Patrick dans Ciné Forever, l'émission sur le cinéma.
Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, Madagascar et Rodrigue. Toutes les îles sont représentées sur le média de l'océan Indien.